Bonjour tout le monde. Enfin, Spectaculaire reprend mercredi 26 janvier 2022. Christophe Rollin au micro, émission numéro 252. C'est un palindrome, c'est intéressant ça. On peut lire 252 dans les deux sens. Peut-être que cela correspond tout à fait à cette exposition, à la mort, à la vie, à la mort. Je reçois, nous recevons, Francis et moi qui est bien présent, coucou Francis, nous recevons Ludmila Virasaminaiken pour, elle est conservatrice en chef au patrimoine, du patrimoine en charge des peintures et des sculptures anciennes au musée des Beaux-Arts. Elle est également commissaire de l'exposition à la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui, exposition qui a commencé le 27 novembre dernier et qui se termine le samedi 7 mai prochain, dimanche 8 mai ce sera férié. Et donc elle vient nous parler de cette très intéressante exposition, vraiment foncièrement, intrinsèquement, viscéralement intéressante, une exposition qui se tient au musée des Beaux-Arts. Jour de fermeture relâche le mardi, sinon c'est ouvert du mercredi jusqu'au lundi. Sur des horaires, c'est très bien. Donc on va en parler pendant toute cette durée, jusqu'à 15h. On commence avec un petit peu de retard aujourd'hui, 14h10. Donc commençons tout de suite. La jeune fille et la mort, c'est un très bon titre pour lancer cette émission. Et puis nous continuerons, fin d'émission, comme d'habitude, chronique numéro 5 de Francis sur un livre d'Anne Berest. Vous entendrez tout cela tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes, et nous aussi, sur le 102.2 de la bande FM, également sur internet radiocanu.org, et nous écoutons La jeune fille et la mort. C'est une version, je l'indiquerai tantôt, et puis voilà, jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Relâche la semaine dernière, mais on est à fond jusqu'au mois de juin. cela continue encore. Cette version du Quatuor numéro 14, je crois que c'est bien le cas, Quatuor en à cordes, en ré mineur, La jeune fille et la mort, opus posthume Deutsch 810 de Franz Schubert. C'était l'Allegro, hein, et il y restait encore bien plus de 5 minutes. Et c'est un peu trop pour parler de cette exposition à la vie, à la mort, à la vie. Je vais réussir à mettre ce titre dans le bon sens. À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui. Exposition très riche, pour laquelle nous recevons la commissaire, la conservatrice en chef du patrimoine en charge des peintures et sculptures anciennes, Ludmila Virasaminaiken. Bonjour, coucou Francis, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, première partie d'émission, avant que nous évoquions plus précisément cette exposition qui a commencé le 27 novembre dernier, qui se termine le 7 mai prochain, une belle exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts sur la place des Terreaux. Bien avant de l'évoquer, un petit portrait de la commissaire, de la responsable de cette exposition. Je me doute que Sylvie Ramon a beaucoup fait aussi, mais en fait, vous quand même, bien plus qu'elle. Hein, c'est...
Alors, il s'agit d'un projet collectif, on aura sûrement l'occasion de le dire. Je le porte plus précisément, puisque j'en assure le commissariat, mais les collègues du Musée des Beaux-Arts et du Musée d'Art Contemporain ont quasiment été mis à contribution pour ce projet.
Je vous remercie de ne pas, donc, c'est vrai peut-être, alors que j'étais en train de vous lancer, de commencer par la fin, mais on va y arriver, puisque cette question initiale, c'est... Qui êtes-vous, Ludmila Virasaminaiken? Comment êtes-vous arrivée à porter ce projet en collaboration? Qu'est-ce qui vous a amené dans votre enfance, dans vos études, à pouvoir assurer un commissariat d'exposition, ce qui n'est pas une mince affaire tout de même?
Alors, un goût pour les arts plastiques prononcé dès l'enfance, en effet. Et puis, au moment de choisir des études, j'ai pris la direction vers l'histoire de l'art et ensuite j'ai passé le concours qui permet de devenir conservateur du patrimoine, de travailler dans les musées et de porter des projets tels que celui-ci.
Et est-ce qu'il y aurait, je ne veux pas remonter trop en arrière, c'est pas non plus c'est une forme de séance, de confession, mais est-ce qu'il y aurait un moment peut-être dans vos jeunes années auquel vous pourriez accorder ce titre de ce terme de déclic? Est-ce que vous avez un souvenir qui vous...
Alors, ce n'est pas un moment précis, c'est la pratique artistique dans l'enfance qui m'a amené à chercher des modèles et donc à fréquenter les livres d'art à la bibliothèque municipale, tout simplement. Et puis aussi des visites qui ont pu être faites dans le cadre de l'école, dans les musées. Je pense à une exposition Bonnard, je suis bordelaise, qui s'était tenue au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et qui reste un moment important.
Penser en forme et en couleur, c'était le titre d'une des expositions précédentes pour laquelle nous avions reçu Céline Lebacon, également enfin, commissaire de cette exposition. C'était sur l'année 2019, hein, je crois.
Oui. En 2018, la ville de Lyon a décidé de rapprocher le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'Art Contemporain pour les associer dans le cadre du pôle des musées d'art de la ville de Lyon. Et depuis 2018, il y a eu deux projets qui ont décliné cette collaboration. Un premier en 2019, pensé en forme et en couleur, où des œuvres du XXe siècle du Musée des Beaux-Arts étaient mises en dialogue avec des œuvres contemporaines du MAC. En 2020, vous avez peut-être vu au Musée d'Art Contemporain Comme un parfum d'aventure, qui est un projet qui a été porté par le MAC, mais avec des œuvres du Musée des Beaux-Arts également, qui a été préparé dans le contexte du premier confinement et de ceux qui ont suivi évidemment, et qui interrogeait la notion de déplacement qui était empêchée à cette époque. Et enfin, donc, cette année, en 2021-2022, ce projet qui nous rapproche de nouveau.
Je vous remercie, mais en fait, si j'allais chercher ce titre d'exposition, c'était seulement l'idée pensée en forme et en couleur. Oui. Ce sont des couleurs chez Bonnard qui vous ont beaucoup plu.
Ah, pardon.
Mais c'est formidable, parce que comme ça, c'est très très bien. Je vous remercie. Vous avez pu donc déjà, c'est bien. On est sur un portrait double, à la fois un portrait peut-être de l'exposition, mais un portrait aussi de vous-même. Donc oui, chez Bonnard actuellement, y êtes-vous allé à Grenoble?
Non, pas encore. C'est la fin, c'est même fini.
Non, il reste encore quelques jours. Je crois que c'est jusqu'au 30 janvier. Le 30, c'est dimanche peut-être.
C'est dimanche, il reste un week-end.
Ça vaut le coup, j'y suis passé, moi, et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de couleurs. Pourrait-on dire que Bonnard, Pierre Bonnard, est également grand dessinateur? Oui, oui, il avait des carnets de croquis très importants.
Bien entendu, oui.
Vous gardez une affection.
Un dessinateur, un peintre, vous évoquiez à couleur, un photographe également. Pierre Bonnard, c'est une figure très complète d'artiste.
Ah bah, allez voir cette exposition. Vous gardez un peu d'affection pour lui, un certain attachement ou moins? Non,
Si, c'est bien le cas, je vous confirme.
Et donc, voilà, une exposition école, collège, c'était à quel moment à Bordeaux?
C'était à l'école primaire, que l'on appelle élémentaire aujourd'hui.
Donc c'est...
Ça doit être en CE. Hein.
Donc un goût qui, pour les arts, qui est assez ancien.
Oui.
Et alors, peut-être pour entrer davantage dans la fonction que vous avez au musée, vous n'êtes pas... Enfin, vous avez tout de même vous avez un poste particulier, c'est en charge des peintures et sculptures anciennes. C'est-à-dire que Bonnard n'appartient pas aux époques que vous êtes censé couvrir.
Non. Au musée, je suis en charge d'œuvres de sculptures et de peintures qui ont été créées du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc je passe le relais à un collègue... pour ce qui est du 19e siècle et à Sylvie Ramon pour le 20e siècle.
Francis, une question à poser.
Je vais poser la question. Vous avez toujours été à Lyon? Non, j'imagine que vous avez occupé d'autres postes avant ou, est-ce que vous êtes arrivé à Lyon?
Donc lorsqu'on passe le concours de conservateur, on suit pendant 18 mois une formation initiale qui nous fait suivre des stages à travers la France. Et puis à l'issue de cette formation initiale, j'ai pris mes fonctions à Aix-en-Provence pour mon premier poste.
D'accord.
Je suis restée un certain temps, 7 ans je crois. Et ensuite j'ai postulé à Lyon, parce que c'est une collection absolument extraordinaire.
Ce qui vous a attiré, c'est vous étiez à Aix-en-Provence, c'était aussi sur des œuvres anciennes
ou... Oui, ce sont les collections qui m'ont aimanté à chaque fois.
D'accord,
tout à fait,
donc c'est vraiment votre spécialité.
Oui.
Et là, à Lyon, vous avez trouvé votre bonheur, du coup.
Oh, c'est l'épanouissement. Avec une telle collection, complètement.
Ok.
Alors ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà en train d'entrer un peu dans l'exposition. Peut-être alors ce biais là, c'est que vous m'indiquiez cela tout à l'heure hors antenne, des œuvres présentées dans l'exposition ne sont pas habituellement présentées. Elles se trouvent dans ces fameuses, j'ai déjà entendu le terme plusieurs fois, les réserves, c'est ça?
Oui, nous ne présentons pas en permanence toutes nos collections, ce serait impossible. Hein. Les murs du musée des Beaux-Arts, des salles des collections permanentes ne nous le permettraient pas. Puis toutes les œuvres ne sont pas forcément en état ou ne sont pas toutes de la même qualité, donc on fait tourner les présentations. Mais cette exposition, à travers l'angle thématique que nous avons retenu, nous a permis d'approfondir notre connaissance du fond, de sortir des tableaux des réserves qui ont été restaurés à l'occasion, et puis de découvrir un fond d'estampe que l'on méconnaissait, faute de personnes qui aient spécifiquement travaillé dessus. Et donc c'est près d'un tiers de l'exposition qui est constituée d'œuvres du Musée des Beaux-Arts totalement inédites. Donc même les visiteurs les plus familiers, les plus aguerris, qui fréquentent notre musée très fréquemment, ne connaissent pas ces œuvres et vont pouvoir les découvrir.
Comment ça se passe pour créer une exposition comme celle-ci, par exemple? C'est que c'est les œuvres qui vous inspirent la thématique, ou est-ce que c'est la thématique et ensuite vous allez chercher les œuvres qui vous correspondent à la
comment? Premier.
Eh bien, ni la poule ni l'œuf, parce qu'en fait, ça, dans ce cas très particulier, c'est une collection particulière qui nous a donné cette idée. Quand vous visiterez l'exposition, ou si vous l'avez déjà fait, vous avez pu voir qu'il y a essentiellement des œuvres du Musée des Beaux-Arts, des œuvres du MAC, qui pour certaines n'ont pas été vues depuis des décennies, donc pour les Lyonnais c'est vraiment l'occasion de les revoir, et en contrepoint des œuvres d'une collection particulière qui est celle d'un couple d'amateurs lyonnais qui nous accompagne de longue date, qui accompagne le musée depuis des décennies, et dont l'axe principal est la vanité. Et à partir de cette collection, nous nous sommes posé la question, et nous serions-nous en mesure de dessiner un parcours, de projeter un discours sur cette question des vanités?
D'accord, donc c'est aussi un petit peu un hommage à cette collection particulière.
Tout à fait.
Ok, je comprends mieux, mais c'est pas tout le temps le cas, j'imagine que d'autres expositions, alors du coup, de l'œuf ou de la poule, sur d'autres expositions, ça se passe comment?
Alors on peut avoir un point fort dans la collection et vouloir le valoriser à travers une exposition. Okay. Là, c'est un cas particulier parce qu'on part de nos collections propres. Dans la plupart des cas, dans les expositions que vous visitez, nous faisons appel à des prêts extérieurs qui parfois viennent de loin. Donc on a un propos qui préexiste à la constitution du corpus.
D'accord.
Nous, au contraire, nous sommes partis des œuvres. C'est-à-dire que nous ne prétendons pas traiter de manière exhaustive du sujet, mais y répondre à travers nos collections.
Intéressant.
D'où l'intérêt du catalogue, on pourra en dire un mot, le fait qu'à l'intérieur soit présenté, mais c'est toujours l'affaire des catalogues, que de présenter également d'autres œuvres qui ne sont pas forcément exposées lors de... lors de l'événement.
Dans les essais introductifs, tout à fait.
C'est ça, voilà. Est-ce que vous parliez tout à l'heure des visiteurs lyonnais aguerris, visiteuses lyonnaises aguerries. Est-ce que vous-même, vous maîtrisez, vous connaissez tout le fond, disons le fond des sculptures et peintures anciennes? Oui.
Alors, non.
Mais presque.
Je suis décevante, je suis désolée.
Comment ça, non?
Nous y travaillons, j'y travaille tous les jours, en fait. C'est la collection du Musée des Beaux-Arts est une collection qui a été très étudiée, qui est connue, qui est importante, mais... Néanmoins, il reste du travail à mener sur ces collections. Et c'est par le biais de publications que l'on y procède. Par exemple, en ce moment, nous préparons le catalogue raisonné des sculptures du Moyen-Âge et de la Renaissance. Un fonds qui n'est pas très connu du public lyonnais, qui est véritablement exceptionnel et que l'on va valoriser par le biais de ses recherches. Parce que depuis 1945, c'est un fonds qui n'a pas été étudié. Donc vous voyez, la recherche évolue, l'état de la connaissance aussi. Donc on a des jalons qui nous permettent de faire le point sur les collections. Mais à un moment donné, non, nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas la connaissance précise de toutes les œuvres. Mais nous savons qu'elles sont là, nous en vérifions l'état.
De toute façon, est-ce possible de toute façon? Ou en fait non, il y a trop d'œuvres peut-être ou c'est...
Alors dans un fonds comme celui dont je m'occupe, je connais à peu près tous mes petits, il n'y a pas de problème. Pour des collègues tels que ma collègue qui s'occupe d'archéologie, c'est plus complexe parce qu'elle a un volume beaucoup plus conséquent. On n'est pas dans la même échelle.
Et ces fonds, ils appartiennent à la ville, à la métropole, à l'État? D'accord. C'est la ville qui est propriétaire?
C'est la propriété des Lyonnais.
D'accord.
C'est un fonds municipal.
Ok. Et l'État n'intervient que très peu au sein des collections? Comment ça se passe?
Il faut savoir qu'en France, je vais me risquer un pourcentage, mais on va dire 98% des musées sont territoriaux et sont municipaux pour la très grande majorité d'entre eux. L'État, à travers des instances, intervient au moment des acquisitions, des restaurations, pour valider ou conseiller quand nécessaire.
D'accord, donc le musée du Louvre, par exemple, c'est la mairie de Paris.
Alors là, non. Je vous disais, il y a un faible pourcentage de musées qui ne sont pas municipaux et ce sont les plus connus. Ce sont les grands musées parisiens que vous connaissez.
Voilà. Ok, d'accord.
Moi, j'avais peut-être une dernière question avant d'aborder plus précisément cette exposition elle-même. Où sont-elles entreposées, toutes ces œuvres? Est-ce que le palais Saint-Pierre est absolument immense avec de grandes caves ou en fait non, c'est en dehors de Lyon?
Alors je ne vais pas vous donner le plan précis, ni les clés de ces réserves.
J'en ai chez moi quelques-unes.
Nous avons la chance d'avoir toutes nos réserves sur place, ce qui n'est pas le cas de tous les musées. En centre-ville, vous savez, c'est compliqué souvent. Et non, ils ne sont pas dans des caves, donc aucun risque d'inondation dans notre cas. Mais ils sont dans des réserves.
Et donc, vous l'avez indiqué à l'instant, cette exposition est l'occasion de les voir, alors que pour ce que vous avez dit auparavant, ce sera plutôt une publication. Il peut y avoir ce double aspect, ou bien exposition de ces œuvres, ou alors publication de guide raisonné, vous avez employé ce terme-là.
Alors, c'était par rapport à l'état de la connaissance de ce front, mais vous voyez les œuvres que l'on a restaurées pour l'exposition. Alors, je ne parle pas des arts graphiques, parce qu'on ne peut pas les exposer en permanence. Hein, les œuvres qui ont le papier comme support sont trop fragiles, trop... risque d'être endommagé par l'éclairage. Mais pour les autres, ce sont des œuvres qui vont intégrer la présentation permanente. Donc à l'issue de l'exposition, rejoindre les collections et pourront être vues tous les jours de l'année par les visiteurs.
Ça veut dire qu'une exposition comme celle-ci, ou comme d'autres que vous faites régulièrement, ça nécessite une préparation assez lointaine dans le temps. Il faut prévoir ça. S'il faut restaurer les œuvres, je ne sais pas du tout combien de temps ça prend.
Et les étudier, prend des années.
C'est ça. C'est ça. Donc là, ce projet, il est né, par exemple, il y a combien de temps?
Alors, c'est encore un contre-exemple. Je suis désolée. Mais
peut-être question teasing. Ouais. Auditeur, auditrice, 14h28, restez à l'écoute pour savoir depuis quand Ludmila Virasaminaiken travaille sur cette exposition. En compagnie, on nomme peut-être Hervé Percebois, c'est ça?
Entre autres, il fait partie du comité scientifique, comme Stéphane Pacou, Céline Lebacon, Salima Elal et Sylvie Ramon a grandement contribué également à ce projet.
Donc depuis quand toutes ces personnes du Musée des Beaux-Arts, du pôle muséal de Lyon, travaillent-elles à cette exposition à la mort? à la vie. Vanité d'hier et d'aujourd'hui, une exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au samedi 7 mai prochain. Et bien, pour nous donner envie, écoutons Tricky qui chante avec, est-ce que c'est Martina Topliebird, She Makes Me Wanna Die, extrait de l'album Premillennium Tension. On s'est dit qu'une fois passé La Jeune Fille et la Mort, on ferait une programmation pop pour cette exposition. On aurait pu diffuser Totentanz, la danse, danse macabre, c'est ça, de Franz Liszt, ou également, auditeurs, auditrices, vous échappez au grand macabre de Giorgi Ligeti. J'avais préparé la fin de la scène 2, mais c'est peut-être un peu, Francis, hein, c'est peut-être un peu difficile, Ligeti.
C'est bien Tricky.
Bon, écoutons Tricky, et nous continuons pour parler de cette exposition en compagnie, en fort bonne compagnie, et tout sera très bien. Allez, à tout de suite. She makes me wanna die and follow where Mary goes and cherish the things she knows and says if I change my stride and then I'll fly. She makes me wanna die. And change my stride. And then I'll fly. Look to the sun. See me in psychic pollution. Walking on the moon. And how could you dare? And who do you think you are? You're insignificant. A small piece. An ism. No more, no. You try to learn the universe. Can't even converse in universe. You know it's ironic. Smoking hydroponic. She makes me wanna die. And change my stride. And then I'll fly. And she makes me wanna die. Follow where Mary goes. And cherish the things she knows. Says if I change my stride, then I'll fly. And change my stride. Cela enchaînait, c'était pas nécessairement voulu. Extrait de l'album de Tricky, Premillennium Tension, She Makes Me Wanna Die. je sais même pas comment traduire, elle me donne envie de mourir. Serait-ce l'illustration du beau dossier de presse, À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui. C'est d'après André, j'ai perdu son nom, André Vessal, voilà. Un beau squelette, une belle mort qui tient une bêche. Nous recevons, pour cette exposition qui a commencé le 27 novembre dernier, qui se termine le 7 mai prochain, samedi 7 mai, nous recevons la commissaire Ludmila Virasaminaiken, qui nous a brossé un beau portrait de ses fonctions et d'elle-même en première partie d'émission. Et donc là maintenant, à 14h presque 35, il est temps d'entrer dans l'exposition. Francis avait lancé cette question. Les projets, enfin comment qualifier ça, la préparation.
Le temps de maturation, de préparation pour une telle exposition, et vous nous disiez que,
normalement,
encore une fois, ce n'était pas forcément significatif. Mais
non,
voilà.
Ce cas précis n'est pas forcément exemplaire, parce que normalement, nous, la préparation des expositions s'étend sur des années. Oui. Parce qu'il y a le temps de la recherche, le temps de consulter, de faire appel à des spécialistes, hein. Nous ne sommes pas omniscients. Le temps de préparation des œuvres, le temps de collecte des œuvres, parce que quand on fait des prêts à l'extérieur, ce sont des procédures longues. Vous avez là aussi les temps administratifs, hein, les marchés, différents marchés, pour concevoir aussi bien la scénographie qu'un catalogue. Mais surtout le temps de la recherche, de la consultation de ses pairs. On peut mettre 4-5 ans à préparer un projet, mais on en prépare plusieurs en même temps. Donc, vous voyez, ce sont des...
Mais c'est intéressant de savoir ça, parce que du coup, on pourrait se poser la question, tiens, est-ce que les expositions peuvent varier en fonction de l'actualité?
Quand même. Parce que vous voyez cette exposition.
Alors celle-ci particulièrement,
à la mort, à la vie,
elle a vraiment du sens. En effet, elle a vraiment du sens. Mais...
Elle n'était pas prévue à cette date. Les perturbations que toutes les institutions culturelles ont connues au niveau de leur programmation suite à la pandémie ont entraîné chez nous des changements comme ailleurs. Et cette exposition a été conçue. Vous êtes dans le secret de la fabrique ici, parce qu'on ne s'étend pas sur ces détails en général, en peu de temps. Et en faisant le pari que le public nous suivrait alors que le sujet a trait à l'actualité, alors la vie dans la perspective de la mort, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, mais d'autant plus ces deux dernières années où notre condition de mortel nous a été rappelé tous les jours.
Oui.
Ça avait été le cas pour l'exposition de 2020 au MAC, comme un parfum d'aventure qui questionnait la question du déplacement, et là, l'usage de la vie qui est brève et fragile.
Alors, moi qui ne connais pas du tout cette exposition, vous pouvez nous en dire deux mots? Comment ça, c'est quoi le truc?
Un parcours, ou alors peut-être non, à défaut, il y a peut-être encore une troisième idée, c'est la thématique générale. Oui, il faudrait peut-être définir ce terme-là, les vanités en peinture. Ludmila Virasaminaiken, qu'est-ce que c'est donc?
Les vanités, alors la vanité.
La vanité.
Je crois, non, vous avez raison, les vanités, mais... Je commence par la vanité que nous connaissons bien, hein, ça. Être vain, attirer orgueil démesuré d'une qualité ou d'une condition, d'un statut, on le connaît. En histoire de l'art, on parle de vanité au singulier pour un genre, pictural qui se développe au XVIIe siècle dans les anciens Pays-Bas, qui consiste en des natures mortes avec des objets qui ont des charges symboliques et qui sont accumulés autour de crânes, dont on sait bien ce qu'il représente. Mais dans l'exposition, vous verrez autre chose que ces natures mortes que l'on qualifie de vanité, aussi bien des scènes de genre que des représentations de saints, de saints ermites, des bouquets de fleurs, de la peinture animalière aussi, parce que le registre de la vanité, des vanités, est bien plus large, hein, puisque cette question du sens et de l'emploi de l'existence, quand on la met en perspective avec le terme qui est promis à tout un chacun, évidemment, transcende les clivages générationnels, d'où ce choix de sujet pour un projet réunissant les collections du Musée des Beaux-Arts et du MAC, mais transcende les typologies, les genres.
Et c'est que sur de la peinture ou il y a de la sculpture, il y a autre chose?
Non, il y a de la peinture, de la sculpture, il y a des objets d'art, il y a des installations, il y a de la vidéo, une installation vidéo et sonore de Bill Viola, par exemple, qui n'a pas été montré depuis sa création. Donc là aussi un spectre très large pour ce qui est des médiums.
Je parcours, et comme toujours hein, dans les expositions, alors peut-être celle-ci, oserais-je le encore plus, des explications qui sont apportées très souvent à différents endroits, bien, sur les entrées de sections, les différentes parties. Et là, par exemple, je pense que j'ai quelque chose pour toi, Francis. Vous l'évoquez un petit peu à l'instant, Mathilde Semblé, Ludmila Virasaminaïken, le fait qu'il y ait ces différents objets qui peuvent être placés dans les vanités. Et c'est une fois qu'on est arrivé au deuxième étage, qu'on a passé les escaliers, un peu plus loin dans le couloir, j'en ai tiré un cliché tant j'ai trouvé la matière intéressante. Le miroir, le livre, le sablier, les fleurs, le crâne, les instruments de musique, la bulle de savon, le verre de vin, l'écorce de citron, le papillon, la montre, et puis il y en a encore un dernier, la chandelle, tous ces objets... peuvent, enfin, comment dire, qualifier, enfin, du moins, entrent dans cette composition de la vanité, des vanités.
Complètement, on aurait pu en citer d'autres, on s'est restreint à cette liste. Alors, vous trouvez les représentations et les significations symboliques de ces objets sur un mur dans l'exposition. Mais dès le départ de l'exposition, dans le livret, dans l'expo en poche qui vous est remis gracieusement.
Un petit fascicule.
Voilà,
très
vous trouverez
complet.
Ces explications, parce qu'on s'est dit qu'il fallait équiper nos visiteurs, leur donner les outils de lecture, parce que ce sont des œuvres dont la compréhension n'est pas immédiate. Il faut être initié, et ce petit lexique, ce répertoire permet, je pense, aux visiteurs d'aller d'œuvre en œuvre en ayant les moyens de les décrypter, en fait.
Donc, à la mort, à la vie, dans ce sens-là, c'est certes la mort qui claque, mais l'expression se termine tout de même par à la vie. Et peut-être pourriez-vous développer un peu cette idée que cette exposition, même si je vous ai dit que dans mon entourage je connaissais quelqu'un qui avait été fort remué par cette exposition, vous estimez qu'il peut y avoir une forme de, comment appeler ça, de vous évoquez la figure de Ronsard, il y a quand même l'idée qu'il faut profiter de la vie, profiter des instants présents, et qu'on n'est pas dans une exposition sur une forme de catastrophisme et de pessimisme et de
pas.
Morbidité. Et de...
Non. Nous avons renversé l'adage à la vie, à la mort, en à la mort, à la vie, pour ne pas éluder la question, la présence de la mort. Hein, elle est bien présente, mais toujours avec un pas de côté, hein, une représentation d'ordre symbolique, de l'humour, du grotesque même dans certains cas, lorsqu'il est question de représenter la mort. Mais jamais une approche morbide, directe, macabre, oui, mais pas morbide. Vous ne voyez pas des représentations qui fassent peur de la mort. Vous ne voyez pas de représentations de mort eux-mêmes. Et puis surtout, ces œuvres, qu'elles soient... qu'elles aient été anciennement créées ou qu'elles soient récentes, nous posent toute la question de l'usage de notre existence, en nous rappelant que la vie est précaire, qu'elle est fragile, qu'elle passe à toute vitesse. Ces œuvres nous rappellent qu'il convient de bien l'employer. Alors, ça peut être dans une perspective épicurienne, comme vous l'avez dit. Ça peut être aussi dans une perspective chrétienne, pour des œuvres plus anciennes, où il est question de préparer le salut. Mais il est question de la vie dans toutes ces œuvres, et d'ailleurs ce sont des œuvres particulièrement belles, je crois, que nous présentons, qui montrent que les artistes ne se sont pas morfondus en traitant de ces sujets, mais ont pris beaucoup de plaisir, beaucoup de soin à montrer la beauté de la vie à travers les objets représentés.
C'est tout public.
C'est tout public, il y a même un livret-jeu pour les enfants.
Ok, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, en effet.
C'est une question qui fait partie de la vie, tout simplement. Hein. Donc, il y a aussi dans la programmation des ateliers qui sont prévus pour les enfants, des visites pour les enfants, donc il n'y a pas de restriction.
De 7 à 77 ans, comme c'était marqué sur les boîtes de jeu.
Et même
Je me demandais aussi, vraiment Francis, hein, je crois, un accès tout public pour ce qui est des tarifs aussi. Hein. Est-ce qu'on peut l'évoquer? Les avez-vous sous les yeux? Moi, je les avais, puis je les ai perdus. Et c'est quand même, c'est tout à fait modeste ici, je les ai sous les yeux. Pas même 10 euros, 8 euros tarif plein, 4 euros tarif réduit, voire gratuit pour les moins de...
Exonération de droit, tout à fait.
Voilà, moins 18 ans, exonération de droit, c'est également important de le dire, parce que, enfin, voilà, vous l'avez indiqué, ce sont tout de même de belles œuvres. Hein. La section L'absente de tout bouquet est absolument splendide. Hein. Ces tableaux de fleurs avec toutes ces couleurs, Bon, il y a un escargot, un bel escargot, et sorte sur un gros champignon. Il y a également quelques papillons qui s'envolent, mais c'est très beau. Peut-être celle de Michel Barcelo, un peu dure, hein, avec une idée de putréfaction, des termites. Ah ben, enfin voilà, on n'est pas tout à fait. Alors là, pour le coup, peut-être un tout petit mot sur ces œuvres que j'évoque à l'instant. Je vous parle donc le gros escargot, c'est sur. Enfin, je vous qualifie d'escargot.
C'est bien un escargot.
Charles William de Hamilton. Plante, insectes et reptiles dans un sous-bois, première moitié du XVIIIe siècle. C'est une œuvre donc du fond du Musée des Beaux-Arts. Et puis celle que j'évoque, celle que j'évoquais juste après, celle de Michel Barcelo. Là, en revanche, ce sont plutôt
elle appartient à la collection particulière que j'évoquais.
Ah, d'accord. Ce n'est pas le Musée d'Art Contemporain qui la possède.
Non. Alors, la première que vous citez donc, appartient à cette section qui est consacrée à la fleur. Hein. Vous trouverez quantité de beaux bouquets de fleurs, l'une des spécialités du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Et pourquoi un tout petit mot ou ce serait trop long?
Pourquoi? Parce que, nous parlions de codification, tous les bouquets de fleurs, toutes les représentations de fleurs ne sont pas des vanités, mais certains indices nous permettent de comprendre qu'il est question du passage du temps. Et ça peut être, par exemple, la chute de pétales, une tige brisée, ou des prédateurs tels qu'un escargot, des bourdons, des couleuvres ou des araignées qui s'en prennent aux vivants, aux végétales.
Et donc vous disiez à Lyon, il y a beaucoup de tableaux de fleurs.
La fleur, c'est important dans l'histoire des beaux-arts et de l'industrie à Lyon, puisqu'en fait, quand le musée est créé en 1803, c'est le Muséum Central des Arts à Paris qui concentre toutes les œuvres qui ont pu être prélevées pendant la Révolution. Et à Lyon, on demande que des tableaux de fleurs soient envoyés plus spécifiquement, et si possible des tableaux peints par des Flamands, qui étaient estimés comme les meilleurs coloristes, parce que tout simplement la ville était exsangue au lendemain de la Révolution, et il fallait relancer la fabrique, l'industrie de la soie, et que les jeunes dessinateurs qui allaient fournir les modèles pour cette industrie de la soie soient formés au dessin de fleurs. Donc il leur fallait des modèles, et il se trouve que cette école de dessin qui formait les futurs dessinateurs de la fabrique était au Palais Saint-Pierre, de même que le musée. Elle ouvre très peu de temps après la création du musée, et en 1805 et en 1807 pardon, et en 1808 le Salon des Fleurs est ouvert. C'est un espace que vous pouvez encore visiter au musée, dans lequel sont regroupées ces fleurs, et une classe de la fleur est ouverte, c'est unique en France, pour former au dessin de la fleur.
On en revient toujours au canut.
Hein.
Donc, de ces deux œuvres, parmi toutes, ça c'est bien que vous ayez pu l'indiquer, tout tableau de fleurs n'est pas forcément, n'appartient pas aux vanités. Il faut qu'il y ait une sorte, enfin, comment dire, des indices, des éléments laissés par le peintre. Et donc, cette autre œuvre de Michel Barcelo, peut-être, moi je voulais vous faire dire un mot du musée d'art contemporain, mais peut-être alors aussi, mais vous l'avez indiqué, ce couple d'amateurs, amateur, le terme à employer.
Oui. Ah oui, amateur très éclairé, tout à fait.
Donc cette œuvre, c'est eux qui la possèdent, et ils ont donc accepté de la prêter avec d'autres aussi. Un chiffre comme ça qu'on peut peut-être lancer, il y a 150, 160 œuvres, je crois, présentées.
160 œuvres.
Et eux-mêmes, le couple de prêteurs, ils en ont un tiers, un quart, c'est ça, qui est prêté?
Un peu moins d'un quart.
C'est quand même très important, ça.
Oui.
Des particuliers.
Ce sont de très belles œuvres, vous verrez, donc c'est l'occasion de les rendre visibles pour les Lyonnais, parce que d'habitude elles sont dans leur maison, tout simplement.
Si je reste sur cette section 8, l'absente de tout bouquet, il me semble que donc on parcourt ce couloir avec Louis-Jean Mau. Moi j'aime beaucoup cette œuvre, la jeune fille,
Fleur des Champs. Alors vous n'êtes pas le seul à l'aimer, hein. Vous devrez la partager avec nombre de Lyonnais, et même de Français et d'étrangers, parce que c'est l'une des œuvres les plus connues du musée. On l'apprécie pour sa joliesse, c'est une œuvre très très belle, à l'expression très douce, très pure, qui est inspirée à Louis-Jean Mau, donc un Lyonnais du 19e siècle, par l'art de la Renaissance, les modèles offerts par Léonard de Vinci ou Raphaël. Et d'habitude on se contente d'apprécier sa plastique, la douceur qui en émane.
Alors là,
nous proposons aux visiteurs d'envisager les œuvres qu'ils connaissent déjà sous un autre angle, celui de la vanité. Et de fait, elle a une couronne de liserons, elle a un bouquet de coquelicots, elle a cueilli des boutons d'or, des bleuets. Les fleurs des champs, quoi de plus fragile qu'une fleur des champs? Sitôt cueillie, ces fleurs se fanent. Et elle considère avec mélancolie un envol de papillons. Alors le papillon, vous l'avez cité parmi les symboles de la vanité tout à l'heure, c'est le symbole de la brièveté de l'existence. Un papillon vit très peu de temps. Mais c'est aussi la possible résurrection de l'âme par-delà le trépas. Donc vous voyez, c'est vraiment une œuvre qui s'inscrit dans la continuité des vanités du XVIIe siècle.
C'est marrant de revoir une œuvre autrement, du coup, via la thématique de l'exposition.
Tout à fait, c'est l'invitation que nous proposons à nos visiteurs.
J'aime bien aussi, alors vous appelez ça des séquences, non? C'est ça que
Les sections.
Ouais.
La section 2, les âges de la vie, qui est plutôt rassurante, j'imagine, parce qu'on voit une personne âgée, et du coup on se dit que la vie est un peu plus longue, que ça peut être dans la section. Si
alors cette dame âgée a un sablier quand même, pour vous rappeler que,
je l'avais pas vu,
le temps passe.
J'avais pas vu. Oui, mais bon, en tout cas, elle est pratiquement au bout du sablier, donc c'est quand même pas mal. C'est rassurant, on va dire.
Moi, dans ce parcours, en fait, la question que je souhaitais vous poser, c'était vous amener, il y a donc, je me trompais, il y a une autre section après cette section 8, il y a donc la vie précieuse, et je crois que c'est dans une salle un petit peu à l'écart, forcément, puisqu'il faut un peu d'obscurité, que nous arrivons, voyez-vous, Ludmila Vera Saminaiken, de quelle œuvre je veux vous parler?
Tiny Deaths de Bill Viola. On est très très fiers de pouvoir présenter cette œuvre qui ne l'a pas été depuis sa création, pour une biennale lyonnaise en 1993. C'est une œuvre exceptionnelle, une œuvre du début de la carrière de Bill Viola, un artiste internationalement reconnu. Et il s'agit d'une installation, l'artiste y tient beaucoup, aussi bien vidéo que sonore, puisque le son joue un rôle très important. Et les visiteurs se retrouvent
dans une salle,
immergés dans la pénombre.
Il y a un couloir qui conduit à cette salle.
Tout à fait, pour se préparer à la pénombre. Et des figures spectrales vont apparaître. D'abord un murmure, c'est d'abord le son qui...
Sur trois murs.
Voilà, séparés, sur trois murs qui nous révèlent... la présence possible d'êtres, et ces êtres, à travers ces êtres spectraux, je dirais, surgissent à travers des flashs, hein, très, très, très saisissants, hein, pour les visiteurs.
Avec une patte sonore
ça doit faire
angoissante un peu.
C'est ça.
Dis-tu, Francis.
Ça doit faire peur.
C'est pas rassurant. Moi, j'étais seul dans cette salle.
Ça me hurle.
Ah, c'est pas forcément flippant.
C'est une expérience.
Oui, c'est. Et donc là, c'est intéressant. Vous indiquez juste un peu auparavant, vous employez le terme de résurrection. Cette œuvre, en quelque sorte, ressuscite un petit peu, puisqu'elle est représentée.
Exactement.
Alors que c'était pas le cas.
C'est la vocation de ce type d'exposition. Nous avons des fonds riches, mais si ces fonds ne vivent pas, si on ne les montre pas aux visiteurs, et typiquement une installation telle que celle-là, si des visiteurs n'en font pas l'expérience, elle ne vit pas.
Lorsqu'on arrive à la dernière section, c'est presque un parcours que nous sommes en train de faire, il y a aussi une autre œuvre, celle de Bruce Nauman, c'est bien lui?
Oui.
Ou je me trompe? Oui, si, c'est bien ça, le butt to butt.
Oui.
C'est quelle matière? C'est de...
Alors, butt to butt, Q à Q, hein, en français. C'est,
la matière de cette œuvre.
C'est une sculpture mobile en mousse de polyuréthane.
Voilà,
c'est un matériau que Bruce Nauman, lui aussi. Il s'agit d'un artiste à la carrière internationale, hein, très, très reconnu. C'est un matériau qu'il a découvert chez un taxidermiste, donc c'est un matériau qui sert à naturaliser des animaux, hein, à les empailler. Et donc un matériau très, très léger, et dont il s'est servi pour cette installation, et il a assemblé des membres, des éléments d'animaux différents pour créer des sortes de chimères, des animaux qui n'existent pas, hein, et qui sont donc accolés cul à cul et suspendus au plafond.
Et puis cette couleur jaune qui est un peu... Enfin, je sais pas comment la qualifier, c'est quand même spécial, c'est particulier.
Oui, et puis vous voyez les sortes de sutures, hein, en fait, les collages entre ces différentes parties. C'est une œuvre très très frappante, encore une fois, très très brute. C'est la dernière image que l'on propose aux visiteurs, hein, qui sont accueillis par une sarabande de squelettes et qui et dont le parcours se conclut avec ces figures empaillées, qui évidemment nous rappellent que nous sommes nous-mêmes des assemblages de chair, hein, nous appartenant aux vivants comme ces animaux, et une œuvre qui fait aussi sûrement référence au traitement infligé à l'animal dans nos sociétés industrielles.
Très intéressant. Vous avez établi une boucle, puisque vous avez évoqué la sarabande des squelettes, les macabres qui accueillent, mais qui accueillent de manière, oui, vous l'indiquiez, forme d'humour un petit peu ou forme légère, enfin comment dire, c'est pas forcément angoissant, inquiétant et terrible. Je voulais évoquer la quatrième de couverture du catalogue avec cette figure d'Eddie Dubien, c'est bien lui qui a une sorte de salle à l'intérieur du deuxième parcours, mais je vois que le temps file, il est temps de faire d'écouter Francis pour sa chronique. Je vous propose, auditeurs, auditrices, de faire un tout petit instant musical. En plus, Francis, tu vas constater que c'est pas du placebo tel qu'on peut l'entendre, c'est du placebo un peu plus peut-être léger. On va écouter jusqu'à Commercial for Levy, extrait de l'album Black Market Music. On va écouter seulement jusqu'à ce qu'il prononce Please Don't Die, s'il te plaît ne meurs pas. Et puis peut-être nous restera-t-il un peu de temps en toute fin d'émission, Ludmila Virasaminaiken, pour évoquer une ou deux œuvres, mais je suis un petit peu inquiet là, le temps file. Commercial for Levy de Placebo, et nous continuons à parler de l'exposition À la mort, à la vie, Vanité d'hier et d'aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts. Tout d'abord, chronique numéro 5. Francis, c'est dans une seconde, tu vas voir. Écoutons Brian Molko annoncer Please Don't Die.
Eh bien, l'heure est venue pour moi de parler de ma petite chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage, hashtag 5. Alors, double hasard du calendrier et des lectures qui s'enchaînent. La semaine dernière, alors pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, je vous ai parlé de conscience et de bonne et de mauvaise conscience lors de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cette semaine, nous allons une nouvelle fois aborder cette période trouble, mais à travers le récit d'une famille juive. Je vais vous parler de confiance, mais pas la confiance en soi ou la confiance en l'autre, non. Plutôt d'une confiance structurelle et politique. Il s'agit du dernier roman d'Anne Berest, ou Anne Beret, je ne sais pas trop comment on dit, La carte postale. Alors autant le dire tout de suite, ce livre est magnifique. Il est touchant, juste, pertinent, pudique. Les adjectifs ne manquent pas pour vous conseiller vivement de le lire. N'ayons pas peur des 500 pages qui pourraient en rebuter plus d'un. On est tellement pris dans cette histoire qu'on ne se rend même pas compte de son épaisseur physique, mais en revanche, on ressent bien son épaisseur historique. Alors parlons-en de cette histoire. Elle démarre en 1925, pour se terminer en 2020. C'est le lourd et tragique récit documenté de la famille de l'autrice Anne Berest, la famille Rabinovitch. Le livre est composé de deux grandes parties. La première raconte la difficile vie de la famille, à savoir ses arrière-grands-parents, de leur naissance en Russie et de leur persécution sans relâche de 1925 à 1942. Mauvaise période. On pourrait se dire que nous avons tout lu sur cette période, tout vu, tout entendu. Mais c'est là le talent et la force d'Anne Berest. Loin d'un énième roman nombriliste sur sa propre famille, elle raconte l'histoire avec un grand H à travers l'histoire personnelle de sa famille. Cette première partie nous raconte l'endormissement d'un peuple face à la peur et à cette fameuse confiance insidieuse et macabre. C'est terrible de se dire qu'Éphraïm obéit à l'État quand l'État organise sa destruction. Mais cela, il ne le sait pas. Il ne peut même pas l'envisager, écrit-elle. La seconde partie s'articule autour de la recherche de l'actrice, de l'autrice, sur les traces de sa propre vie et surtout sur la découverte de son judaïsme. Puis la vie pendant la guerre et enfin la libération, mais pas celle racontée dans les livres d'histoire, pleine de joie et de liesse. Non, celle des camps de concentration et de ces corps perdus en rentrant en France, cette terrifiante découverte de l'horreur, comme cette scène criante de réalisme. L'homme pense en lui-même qu'il n'a plus de papier depuis longtemps, plus d'argent, plus de femmes, plus d'enfants, plus de cheveux, plus de dents. Il a peur de ces gens qui l'entourent et le regardent. Il se sent encore coupable d'être là, coupable d'avoir survécu à sa femme, ses parents, à son fils de 2 ans, à tous les autres, à des millions d'autres. Alors son cœur s'arrête de battre, là, le jour de son arrivée. Un peu comme ce dernier succès sur Netflix, Don't Look Up, comment raconter ? La vérité devient indicible et impossible à croire. Sans s'en rendre compte, elle analyse le jeu de cache-cache que sa grand-mère puis sa mère ont fait depuis sa naissance sur ses origines juives, dissimuler à tout prix ses origines, cette peur ancrée dans leur corps depuis des décennies. Ce livre est rempli d'intelligence, de finesse, et il se dévore. Le récit est bouleversant. Il m'a transporté dans une autre époque pas si lointaine. Tout est vrai, car fruit d'une longue, fastidieuse enquête de sa propre mère. La carte postale a reçu le prix Renaudot des lycéens, c'est publié chez Grasset. Et pour terminer ma chronique, je souhaitais simplement citer leurs 4 prénoms, car ça fait beaucoup de sens pour l'autrice, à savoir à ne pas tomber dans l'oubli. Les voici donc, Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques.
C'est dur d'intervenir après. C'est peut-être une bonne chose qu'il soit à 14h59, comme ça on ne va pas pouvoir ajouter vraiment beaucoup d'éléments. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, Ludmila Virasaminaiken, en hors émission. Il y a une forme tout de même de gravité dans cette exposition qui fait que moi, auditeur-auditrice, je l'ai vu 2 fois, j'en suis très, très heureux. Merci beaucoup, Musée des Beaux-Arts. Je pense qu'il faut y retourner. Parce que, attention, je ne suis pas resté, je n'ai pas eu une mauvaise impression, je me suis seulement senti, pas forcément mal, mais un peu remué, parce que c'est ce que tu as indiqué à l'instant, Francis, ce film Don't Look Up. Voilà, il y a quand même un propos grave, et me semble-t-il, partout, beaucoup dans la société autour de nous, les gens cherchent la légèreté, la frivolité, le ricanement. Et quand c'est légèreté, frivolité, peut-être pourquoi pas, mais le ricanement ou la moquerie ou je ne sais quoi, non, enfin, parfois il y a quand même des choses graves. Le réchauffement climatique est une chose quand même assez importante, la mort qui nous attend tous, Ludmila, Francis, c'est quand même assez terrible, mais...
Oui, mais voilà, dans longtemps.
Voilà, et puis quand j'y suis retourné, ça m'a quand même davantage plu. Toutes ces couleurs, cet accrochage, on ne l'a peut-être pas nommé, le scénographe de cette exposition.
Flavio Bonuccelli.
Qui réussit, c'est épuré. Il y a les textes assurés, donc vous l'indiquiez, par Stéphane Pacou, Céline Le Bacon aussi. A-t-elle écrit quelques notices ou quelques...
Tous les membres du comité scientifique ont participé
tout
à la
musée a mis la main à la pâte. Donc voilà, l'éclairage est très très beau aussi, très bien. Enfin, vraiment, je ne sais pas si les chiffres, les gens viennent, les Lyonnaises, les Lyonnais viennent voir cette exposition. Vous avez quelques échos.
Alors, on est très heureux parce que on craignait, on ne sait jamais hein, que les visiteurs soient effrayés par la thématique, et c'est tout le contraire. Comme toujours, nos visiteurs sont curieux et courageux, et nous avons du monde. Depuis l'ouverture, nous en sommes très heureux.
Avec le fameux livret, le livret jeu enfant, qui peut accompagner pour les enfants, parce que c'est ouvert à tout le monde, ouvert 10h-18h.
Pas que pour les enfants, peut-être que même les adultes hein, peuvent jouer.
Du mercredi au lundi, avec le vendredi un petit décalage, 10h30-18h. Quelqu'un qui n'est pas en décalage, c'est Blues des Canuts, qui est déjà là. Et ben écoutez, on a indiqué les horaires. Ludmila, vous aurez échappé à la question sur votre section favorite ou votre top 5 ouf. Des œuvres. Vous les aimez toutes, de toute façon, vous avez une affection pour toutes, y compris celle du Mac et celle prêtée par les collectionneurs.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est très bien.
Tout autant.
Auditeurs, auditrices, vous avez jusqu'au samedi 7 mai pour aller voir cette exposition. Courez-y, rendez-vous-y. C'est intéressant, c'est beau, il y a des couleurs, il y a des... penser en forme et en couleur. C'était une expression de... C'était pas Bonnard, c'était...
C'était Paul Klee, je crois.
Possible, ou je ne suis pas certain, nous vérifierons ça. Je vous lance une colle en fin d'émission.
Aucune idée.
Le Blues des Canuts commence dans quelques instants. Nous, on va terminer avec les Smiths. C'était, je crois, les Smiths qu'on avait écouté pour ta première en décembre dernier. On était sur Big Mouth Strikes Again. Non, c'était
c'est possible, je ne sais plus.
Some Girls Are Bigger Than Others. On avait
Quelle
écouté
mémoire.
Une version live. Là, nous allons écouter forcément The Queen is Dead, la reine est morte. Nous retrouvons la semaine prochaine. On aurait dû recevoir le musée gallo-romain Luc Dunum, qui a pris ce nom depuis quelque temps, mais je crois que ça va être compliqué. Nous verrons ce que nous ferons. Dans 2 semaines, en revanche, Martha Spinou des Clochards Célestes sera bien présente. D'ailleurs, peut-être viendrait-elle la semaine prochaine. On va essayer de voir. Et donc, dans 2 semaines, surprise. Ludmila, merci beaucoup.
Merci.
Auditeur, auditrice, restez à l'écoute des programmes. À venir, Blues et Canu dans quelques instants. 18h, on arrête. Non, on n'arrête pas le prog. C'est plus à 17h, puis ça a changé de nom. 18h, c'est plutôt Mayday. Et 19h, le Canu Info. Sinon, auditeur, auditrice, portez-vous bien et puis sortez couverts. Il fait très très froid aujourd'hui. Merci tout le monde. Écoutons les Smiths et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.